Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Environ 48 heures après l'occupation de Walikale Centre par le M23 et Alliés, la population regagne timidement la cité. Entre-temps, la situation reste tendue sur l'axe Walikale Centre au nord Kivu et Lubutu au Maniema. Ici, des affrontements persistent ainsi que des pillages à printemps. Sport, éliminatoire Coupe du Monde 2026. La RDC joue ce soir contre le Soudan du Sud au Stade des Martyrs à Kinshasa. Troisième du groupe, les Léopards doivent gagner pour se reclasser. Cédric Bakambu est heureux de retrouver la sélection près d'une année après, vous l'entendrez. Et puis, l'invité de ce midi, Ernest Radjabou, psychologue, clinicien, conseiller au personnel de la MONUSCO. Il s'exprime sur l'importance du sommeil en marge de la journée mondiale du sommeil célébrée le 15 mars de chaque année. Mais sachez tout d'abord que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce vendredi à Windhoek, capitale de la Namibie, pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Madame Netumbo Ndemupelila, nouvellement élue présidente de la République. Information livrée par la présidence congolaise. Cet événement historique coïncide avec la célébration du 35e anniversaire de l'indépendance de la Namibie. Plusieurs chefs d'État africains, principalement ceux de la région d'Afrique australe, participent à cet événement historique, initialement prévu au stade de l'indépendance, mais délocalisé à la dernière minute au palais présidentiel en raison des intempéries, a déclaré une source officielle. Madame, Messieurs, bonjour. La population de Walikale Centre au nord Kivu commence à regagner la cité après son occupation par les éléments du M23 et leurs alliés le mercredi soir. Pendant ce temps, les équipes humanitaires continuent leurs opérations dans la dite cité afin de trouver d'éventuels blessés et de récupérer les corps dans le but de prévenir l'apparition d'épidémies. Cependant, la situation reste tendue sur l'axe Walikale Centre-Lubutu où des affrontements persistent ainsi que des pillages. Le point avec vous, Grâce Amzati.
Bien que certains habitants commencent à regagner Walikale Centre après l'occupation du M23, leur retour reste extrêmement timide selon des sources locales. Il s'agit principalement des personnes qui avaient fui vers les environs immédiats de la cité et non celles qui s'étaient déplacées plus loin. Parallèlement, la population dénonce des pillages systématiques perpétrés par des hommes armés en tenue militaire dans de nombreux villages et agglomérations de la région, notamment à Mubi, Njingala, Logu, Birue, Makana et Kangama, jusqu'à la limite entre le Nord Kivu et la province du Maniema. Ces pillages sont d'une ampleur considérable. Animaux de basse-cour, marchandises de boutique, biens personnels, rien n'est épargné. Cette situation engendre une psychose généralisée dans la zone. Face à cette situation, les habitants de plusieurs villages préfèrent se réfugier à l'écart des axes principaux et mettre leurs biens à l'abri pour éviter les pillages.
Pendant ce temps, la rébellion du M23 AFC contrôle actuellement plusieurs zones minières stratégiques dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette situation renforce l'emprise des rebelles sur des ressources minières clés dans la région. Conséquence, une perte énorme des recettes pour le gouvernement et la suspension des activités de certaines entreprises minières. Détail avec vous, Martial Papimukeba.
Dans le Nord Kivu, le M23 AFC a récemment pris le contrôle de la cité de Walikale, riche en minéraux tels que le coltan, l'or et la cassiterite, notamment avec la mine de Bissié, l'une des plus riches en été au monde. La rébellion contrôle également la zone minière de Rubaya, riche en coltan, située dans les territoires de Masisi. De plus, le M23 AFC contrôle également la zone où se trouve l'importante mine de pyrochlore de Loueche, dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Ces sites, jadis attribués par les gouvernements à la société minière du Kivu, Somi Kivu, n'avaient pas été exploités depuis plusieurs années. Dans les territoires des Lubero, les rebelles contrôlent des zones aurifères comme Moussia, ce qui avait contraint les leaders du groupe armé FPPAP à les rallier pour préserver ses intérêts miniers. Dans les sites Kivu, la rébellion contrôle la cité minière des Lumbishi, riche en tourmaline, coltan, or et cassiterite, dans les territoires des Kalehe. Ces occupations renforcent l'emprise du M23 AFC sur des ressources minières clés au détriment du gouvernement.
Et sachez que le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, s'est dit stupéfait par la rencontre entre les présidents du Rwanda, Kagame, et de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, rencontre tenue le 18 mars à Doha, au Qatar. Interrogé hier par la presse à l'aéroport international 4 de février de Luanda, en marge de la fin de la visite du président de la Commission de l'Union africaine en Angola, il dit estimer que tous les efforts en faveur de la résolution des conflits sont les bienvenus, mais a insisté sur le fait que les problèmes africains devraient trouver des solutions africaines. Tété Antonio souligne également que le président angolais João Lourenço avait été surpris par l'initiative du Qatar qui a permis cette rencontre entre les deux dirigeants, rappelant que l'Angola pilote le processus de Luanda pour la paix dans l'est de la RDC, tente depuis quelques jours d'amener le gouvernement congolais et la rébellion du M23 à engager des négociations directes. Au sud Kivu, entre-temps, reprise des combats ce matin dans les hauts plateaux de Minembwe. D'après l'administrateur du territoire de Fizi, les FARDC et les Wazalendo ont lancé un assaut sur les positions de la coalition Tuiroaneo et Gumino, actifs dans la zone. Plusieurs habitants ont fui leur village, toujours d'après la même source. Dans son tweet de ce matin, le sénateur Moïse Nyarugabo confirme ces informations. Il affirme que les FARDC et Wazalendo venus de Fizi viennent de reprendre leur attaque à Mukoko en direction de Kakenge. Hier jeudi, plusieurs attaques armées ont été enregistrées dans plusieurs villages, dont Gawera et Kivumu. La presse appelait à accompagner l'armée en cette période où le pays subit l'agression extérieure et fait face à l'armée numérique de l'ennemi. Cet appel est du commandant adjoint du service de communication et information et porte-parole adjoint des FARDC, le général de brigade Jean-Daniel Batabombi, l'a dit au cours de la conférence de presse qu'il a animée jeudi à Lubumbashi. Jean Gandou signe ce reportage.
Le général de brigade a indiqué que la désinformation a pour seul objectif de décourager les militaires à ne pas combattre. Et ceci est l'œuvre de l'ennemi, d'où cette interpellation.
Ce que nous vous demandons, c'est de ne pas relayer de fausses informations. Si vous avez besoin des informations viables pour mettre à disposition de la population, mais il y a des sites du gouvernement, ministère de la Justice, ministère de la Défense, vous allez obtenir des informations dont vous avez besoin.
En rapport avec les militaires qui mettent sur les réseaux sociaux les informations et les images des opérations, notamment celles du front, le général de brigade Jean-Daniel Batabombi a indiqué que des mesures sont prises pour décourager cela.
Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo venait de signer un télégramme qui interdit l'utilisation des téléphones pendant les opérations. Et pour nous, un télégramme du chef d'état-major général, c'est une instruction. Les contrevenants seront rendus à justice pour que cette pratique qui a essayé un peu de mettre en difficulté la conduite des opérations, que cela ne se répète.
Et pour terminer, il a salué l'engouement des jeunes à rejoindre les forces armées et a exhorté les autres à en faire autant pour l'intérêt de la patrie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Retournons au sud Kivu. Nous apprenons que 4 personnes présumées auteurs de la criminalité en hausse dans cette province ont été lynchées publiquement hier jeudi, 3 à Bukavu et une autre à Ikoma dans le territoire de Walungu. Cette pratique se déroule dans une province où l'appareil judiciaire et la police ne fonctionnent pas depuis la prise de la ville par l'AFC M23 alliée au Rwanda. Détail avec vous, Jude Mister Bilanda.
Ces cas de vindicte populaire est la conséquence directe des tueries en série qui s'opèrent régulièrement dans la ville de Bukavu et dans les territoires qui échappent au contrôle de l'autorité de l'État. À titre illustratif, un jeune du quartier Buholo dans la commune de Kadutu a été tué la nuit du mercredi au jeudi 20 mars par un groupe de voleurs à main armée. Le lendemain, les autres jeunes se lancent à la recherche des meurtriers et tombent sur un présumé assassin dans un quartier voisin. Il est malmené, battu à mort et son corps brûlé sous les applaudissements de la foule en furie. De tels cas, des règlements de compte sont légion. Hier, une autre personne présumée appartenir à la bande de voleurs qui ont occasionné les pillages au marché Mugogo la veille a été tuée à Ikoma. La population a retrouvé sur lui quelques effets volés au marché. Une arme à feu, supposée ayant servi à la commission du crime, a été découverte dans sa main. Les habitants l'ont achevée à l'aide des armes blanches. Les organisations de défense des droits de l'homme du Sud Kivu dénoncent et regrettent les dysfonctionnements de la justice, l'inexistence de la police dans les entités sous contrôle de la rébellion.
Dans l'actualité, sachez aussi que le patron de HJ Hospital, Harish Jagtani, est aux arrêts depuis dimanche 16 mars dans la soirée. Il a été interpellé par les agents du Conseil national de cyberdéfense. D'après les informations en notre possession émanant de certaines sources des services de sécurité et de renseignement, il lui est reproché plusieurs griefs, entre autres le financement des rebelles du M23 AFC. Il serait leur pourvoyeur en nourriture et en médicaments, nous renseignent nos sources. Notons que Harish Jagtani est à la tête de plusieurs firmes évoluant dans divers domaines en RDC. Il s'agit notamment de Supreme Automobile, Mercedes, Hilton Hotel Kinshasa, HJ Hospital, Moderne Construct, Serve Air SA, Immeuble CTC Mall, la Fondation HJ, HJ Pharma, Dépôt Pharmaceutique et Kinshasa Cité Jardin. Je vous le disais en titre, en sport, la RDC joue contre le Soudan du Sud ce soir à 17h au Stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 3e du groupe avec 7 points en 4 rencontres derrière le Sénégal et le Soudan. Les Léopards doivent gagner pour se réclasser dans le groupe. Tout feu, tout flamme en club. Cédric Bakambu est heureux de retrouver la sélection près d'une année après. Pour lui, les Léopards ont tous à cœur de gagner ce match, même s'il n'y a pas de match facile. Cédric Bakambu est au micro de Vanessa Nkongolo.
Je suis jamais parti, je suis toujours là. C'est vrai que j'ai eu une blessure qui m'a écarté des terrains pendant pas mal de mois, pas mal de temps. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Bah, c'est toujours un honneur, c'est une fierté. Ça fait très longtemps que j'ai pas porté le maillot, mais c'est pas la première fois dans ma carrière. Donc voilà, je sais rebondir et maintenant c'est à moi de le démontrer sur le terrain. En ce moment, tous les matchs qu'on joue, ils sont exceptionnels parce que voilà, on sait que la situation au pays est dramatique, surtout à l'Est. Et voilà, on aura à cœur de gagner ce match face au Sud-Soudan pour redonner de la joie à tout le peuple congolais. Demain, on doit gagner parce que voilà, on veut terminer en tête de ce groupe et ça passe par des matchs comme celui-ci et on verra comment ça va se passer, mais il y a toujours la pression. C'est un adversaire qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Moi, ça va être la première fois que je les rencontre. On analyse un petit peu les vidéos et on sait que dans le football, surtout aujourd'hui, il n'y a pas de match facile.
Dans l'actualité aussi, les opérateurs économiques du secteur privé ont eu la part belle lors de la réunion de haut niveau présidée hier jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa par le président de la République. De l'avis de tous les intervenants, il faut encourager l'innovation et l'entrepreneuriat en appuyant substantiellement l'initiative privée qui est le moteur essentiel du développement tant recherché pour la RDC. Présent à cette réunion sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie, la COPEMECO, Confédération des petites et moyennes entreprises, salue cette option et propose quelques pistes pour une économie plus forte. Précision avec Billy Van Lutumba.
Les petites et moyennes entreprises, c'est eux qui tiennent le poumon même de l'économie d'un pays.
Dodo Baloup, président de la COPEMECO, Confédération des petites et moyennes entreprises, réagissant pendant et après les assises, insiste auprès des autorités publiques pour que la gestion des opérateurs économiques du secteur privé obtienne un encadrement efficient et efficace en accédant aussi facilement au financement.
Si les PME n'ont pas un moyen de leur donner le tremplin qu'il faut, on ne pouvait pas avancer. Vous allez dans d'autres cieux, vous allez voir qu'il y a une banque spécialement d'abord des PME. Une banque qui s'occupe des PME pour leur donner des tremplins. Or aujourd'hui, si vous ne les donnez pas les moyens, comment voulez-vous que demain nous ayons les vrais millionnaires tels qu'on les dit?
Parlant de l'amélioration du climat des affaires, en illustration, la COPEMECO parle de l'arrivée imminente des 8 bateaux de pêche sur commande du gouvernement. Une occasion de signer une bonne collaboration avec le secteur privé.
Nous avons déjà 8 bateaux qui vont arriver bientôt. Et ça, ce n'est pas du bluff. Nous l'avons vérifié parce que nos membres sont allés chercher ces bateaux. Et une fois des bateaux de pêche arrivent ici en République démocratique, vous savez ce que ça peut avoir comme impact sur le plan même du poisson. Bien qu'initialement ça a été une idée sur une gestion du secteur public, mais nous tenons en tant que secteur privé qu'on nous donne ces possibilités d'avoir ces bateaux. Et croyez-moi, nous vous donnerons pas 5-6 ans, vous allez voir des bateaux qu'on va commencer à monter même sur place ici à Kinshasa à partir des usines que nous avons ici.
Par ailleurs, dans l'optique de l'amélioration du climat des affaires, la COPEMECO encourage les efforts des autorités du pays pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC.
Aujourd'hui, 21 mars, c'est la Journée internationale des forêts. Le thème de cette journée met en lumière le lien fondamental entre forêt et sécurité alimentaire, forêt et aliments. Dans un communiqué de presse à l'occasion de cette journée, le CIFOR ICRAF explique que son action repose sur deux axes principaux, à savoir l'agriculture durable et la conservation forestière. Ces actions menées dans le paysage de Yangambi visent la promotion de l'agriculture durable et réduction de la pression sur les forêts. Explication, Jacques Moukonkolé.
Le chiffre ICRAF révèle que dans le monde, plus d'un milliard de personnes dépendent directement des forêts pour leur alimentation. Dans le bassin du Congo, par exemple, environ 60% de l'alimentation des populations rurales provient de la forêt, notamment la viande de brousse, fruits, plantes comestibles et médicinales. Depuis plusieurs années, rapporte le chiffre ICRAF, il mène diverses activités pour favoriser la sécurité alimentaire tout en préservant la forêt. Robert Nassi, directeur général du CIFOR, précise qu'en collaboration avec l'INERA et l'IFA, il développe des champs écoles paysans. Ceux-ci enseignent aux agriculteurs comment cultiver près de la forêt sans toutefois la dégrader. En diversifiant les cultures et en favorisant les produits forestiers non ligneux, ils réduisent la pression sur la forêt tout en améliorant la sécurité alimentaire. La question qu'on pourrait se poser est celle de savoir comment la forêt peut garantir la sécurité alimentaire et l'autonomie des paysans. Pour Robert Nassi, la clé est une approche intégrée entre agriculture, agroforesterie et gestion financière. Il précise qu'il ne s'agit pas de remplacer l'agriculture par la forêt, mais plutôt d'assurer un équilibre. En apprenant à gérer les ressources forestières, les communautés deviennent moins dépendantes d'une seule source d'alimentation et assurent leur résilience. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Nigeria. Un grave accident de route a coûté la vie à au moins 8 personnes près de la capitale Abuja. Une remorque transportant du ciment a perdu le contrôle et percuté 14 véhicules à l'arrêt sur une autoroute très fréquentée près du pont Nyanya à Oyo. Et puis sachez que le président américain vient de signer un décret prévoyant la fermeture du département fédéral de l'éducation. Cette annonce n'est pas une surprise puisqu'il s'agit d'une promesse de campagne qui figurait dans le programme Project 2025 dont le candidat s'est largement inspiré. Pour le fermer totalement, il faudra l'approbation du Congrès et une majorité de 60 votes au Sénat où les républicains ne disposent que de 53 sièges.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Ernest Radjabou, psychologue clinicien, conseiller au personnel de la MONUSCO. Il s'exprime sur l'importance du sommeil à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil célébrée le 15 mars de chaque année. Ernest Radjabou s'entretient avec Gloria Lutula.
Bonjour Monsieur Ernest.
Bonjour.
Quelle est l'importance du sommeil dans la santé de l'être humain?
D'abord, parlons de la santé mentale qui, selon l'OMS, est l'état de bien-être complet. L'aptitude à travailler avec succès et de manière productive. Une personne qui a des problèmes de sommeil n'est pas une personne qui peut travailler avec succès d'une manière productive. Il est en perpétuel état de fatigue. Et c'est aussi l'aptitude à relever les défis auxquels on est confronté. Voilà un peu le lien qu'on peut faire. Donc le sommeil lui-même fait partie de la santé mentale. Quand on est en bon état complet de mental, c'est que le sommeil fait partie et notre sommeil n'est pas troublé. Une personne est bien dormie quand elle ne manifeste pas des signes de fatigue le matin. Elle paraît être en forme et elle est productive au travail.
Et comment améliorer la qualité du sommeil?
Un certain nombre de critères doivent être réunis pour bien dormir. Il y en a beaucoup, mais je vais énumérer certains. Par exemple, éviter les activités physiques intenses avant l'heure de coucher. Limiter le temps de passer devant un écran. Le temps qu'on passe devant l'écran, que ce soit la télévision ou l'écran de notre laptop, ou même l'écran de nos téléphones. Il faut limiter le temps qu'on passe là-bas. S'abstenir de consommer de la caféine, le café donc, les repas lourds après 19h surtout, le tabac, l'alcool. Pratiquer des exercices de relaxation plus tôt. S'habituer à dormir plus tôt, à 21h par exemple. On dit en général qu'une heure de sommeil avant minuit équivaut à 2 heures de sommeil après minuit. Donc il faut savoir dormir un peu tôt. Faire un exercice de gratitude. Un exercice de gratitude, ça signifie la gratitude qui est un système immunitaire plus fort, qui donne plus de sentiments de joie, qui abaisse la pression artérielle même. Eh bien cet exercice de gratitude, surtout quand on a de l'insomnie. Comment on le fait? Voir 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour. 5 choses. On peut même aller à 3. Des petites choses et les mieux. Par exemple, une belle fleur qu'on a vue, c'est une chose positive. Du soleil sur le visage, c'est positif. Des éclats du rire, un jus délicieux, etc. Donc, on demande à ce que chaque individu puisse s'entraîner dans cette technique de mentalité positive. Ne pas attendre une occasion pour dire merci aux gens autour de soi. Voilà quelques critères, il y en a. La liste n'est pas exhaustive, mais il y a d'autres critères.
Comment améliorer la qualité du sommeil dans des environnements insécurisés?
Comme j'ai dit, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de notre sommeil pour pouvoir nous reposer et être productifs dans nos différents services au travail. C'est très important. Les églises font du tapage toute la nuit. Elles peuvent prier dans le silence, faire leur veillée dans le silence, sans utiliser les sons qui dépassent même les seuils, jusqu'à déranger ceux qui sont loin, à des milliers de kilomètres, même à de longues distances. Le bruit crée des maladies et source de facteurs dans les maladies psychosomatiques. On doit réguler cette affaire du bruit. À l'Est, avec tout ce que nous vivons, toutes ces guerres, le sommeil doit être perturbé. Le mental déjà est perturbé. Et aussi, je dirais, les bombes, les balles, tout ce crépitement de balles détruit l'oxygène. Nous demandons aux autorités de pouvoir mettre la paix par tous les moyens à l'Est pour que nos compatriotes de l'Est retrouvent la vie, retrouvent la joie de vivre.
Voilà, c'était là notre invité, le psychologue clinicien Ernest Radjabou. Il répondait aux questions de Gloria Lutula. Par ici prend fin ce journal, coordonné et supervisé par Judnister Bilanda et Alain Rongmouchinj, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa. Merci d'avoir été des nôtres.